Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Un tribunal tunisien a condamné hier l'ancien président tunisien Moncef Marzouki à 4 ans de prison, une condamnation par contumace pour atteinte à la sécurité extérieure de l'État. Un arrêté interministériel publié aujourd'hui au journal officiel ouvre les archives judiciaires françaises en relation avec la guerre d'Algérie, une ouverture avec 15 ans d'avance sur le calendrier légal. Elle était initialement prévue demain vendredi, l'élection présidentielle n'aura pas lieu. En Libye, l'autorité électorale propose de reporter d'un mois cette échéance. L'association SOS Amitié s'attend, comme chaque année, à un pic d'appels au moment de Noël. François Gourdeau-Montagne, membre du conseil d'administration de SOS Amitié, sera l'un de nos invités. La fête de Noël, samedi, gros plan dans votre journal sur une messe célébrée ce vendredi soir dans le chapiteau du Cirque Grus à Paris et présidée par le représentant du pape en France. Nous écouterons Alain Pignel, membre de l'aumônerie des cirques. La situation épidémique critique. En France, le ministre de la Santé annonce qu'il faut s'attendre à 100 000 contaminations au Covid-19 chaque jour d'ici la fin du mois. Un tribunal tunisien a donc condamné hier l'ancien président tunisien Moncef Marzouki à 4 ans de prison, une condamnation par contumace pour atteinte à la sécurité extérieure de l'État. Moncef Marzouki, qui réside à Paris, avait appelé la France en octobre dernier à cesser de soutenir le régime présidé par Kais Saied. Un juge tunisien avait émis début novembre un mandat d'amnistie internationale contre Moncef Marzouki, 2 semaines après une demande du président Kais Saied à la justice tunisienne d'ouvrir une enquête sur des déclarations de l'ancien président. Les autorités libyennes ont confirmé hier que l'élection présidentielle prévue demain n'aura pas lieu. L'autorité électorale propose de reporter d'un mois cette échéance, un scrutin crucial dans le processus de transition censé sortir ce pays du chaos post-Kadhafi, un pays paralysé par les tensions entre camps rivaux, incapable de s'entendre sur une loi électorale. C'est désormais effectif, la France a ouvert aujourd'hui ses archives relatives aux affaires judiciaires et aux enquêtes de police dans l'Algérie en guerre contre la colonisation. L'arrêté ministériel est publié au journal officiel. Ces archives sont désormais accessibles sans restriction en vertu d'une procédure dite de dérogation générale. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, en charge du dossier des archives nationales, avait annoncé ce geste le 10 décembre dernier. Cela s'inscrit dans la démarche mémorielle du chef de l'État français. Le rapport de l'historien Benjamin Stora sur la réconciliation franco-algérienne des mémoires remis au chef de l'État en janvier, préconisait notamment un meilleur accès aux archives de cette période. L'objectif était d'aller vers plus de vérité. Gros plan à présent sur les actions de SOS Amitié en France. On s'attend, comme chaque année, à un pic d'appels au moment de Noël. Cette période peut être douloureuse pour les personnes seules. C'est ce qu'indique François Gourdeau-Montagne, membre du conseil d'administration de SOS Amitié. Entretien.
On écoute les gens qui ne vont pas bien. Les personnes qui souffrent d'un mal-être, quel qu'il soit, ont besoin de parler, ont besoin de l'exposer à quelqu'un au moment où ils ne vont pas. Et c'est là où nous sommes présents. Tout simplement, on les écoute. Et le fait d'écouter quelqu'un qui peut mettre des mots sur sa souffrance, on ne va pas les guérir, mais ça permet de dénouer cette angoisse, de dénouer la souffrance, voyez-vous. Et c'est là où on intervient. Je précise, nous ne sommes pas des soignants, nous ne sommes pas des thérapeutes. On est simplement des écoutants.
Et justement, comment les écoutants sont-ils formés?
On n'est pas lancé, je dirais, dans le bain de l'écoute comme ça. Tous les écoutants, tous sans exception, ont une formation initiale, théorique. Cette formation, ça dure à peu près entre 25 et 30 heures, selon les lieux où ça se passe, et c'est donné par des professionnels, par des psychologues. Et puis, il y a également une formation à l'écoute, formation pratique, et ça, cette formation est faite par des écoutants plus chevronnés, plus expérimentés. Ça demande 2-3 mois de formation à l'écoute. Une fois qu'on estime que la personne, que le candidat est apte à pouvoir écouter tout seul, à ce moment-là, eh ben, on lui donne la possibilité de pouvoir écouter. Ça, c'est une première formation. Mais chaque année, des formations continuent. Donc, c'est sur des thèmes bien précis. C'est très important d'avoir sans arrêt des remises à niveau.
Est-ce que la crise sanitaire a eu un impact sur le nombre d'appels que vous recevez?
Ah oui, ça a été tout de suite, on l'a vu. Avant la crise sanitaire, on recevait entre 5 et 6 000 appels par jour. Au moment de la crise, dès que ça a démarré, on a fait plus de 30%. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, à aujourd'hui, on reçoit en moyenne 8 000 appels par jour. Ça ne veut pas dire qu'on peut tous les prendre, malheureusement. On prend un appel sur 3, un appel sur 4, parce qu'on n'est pas assez nombreux à écouter. Et on s'attend, comme chaque année, au moment de Noël, à un pic d'appels. Et on recevra environ, à ce moment-là, 10 000 appels, tous les jours.
Oui, parce que le moment de Noël, le moment des fêtes de fin d'année, peut être un moment de grande souffrance pour les personnes seules.
Ça fait un effet miroir sur la solitude de ceux qui en souffrent. Pour ceux qui souffrent de solitude, ça devient encore plus difficile, encore plus insupportable. Et nous, on essaie d'être présents pour être là le temps de leur appel et qu'ils puissent exposer leur souffrance. On a notre phrase, on a un petit slogan qui dit mettre des mots sur le mal. Et ça paraît tout simple, ça paraît évident. Et pourtant, quand il y a des gens qui vous appellent et qui vous disent, voilà, je vous appelle parce que j'ai besoin de parler, tout simplement, j'ai besoin de parler. Ça fait 3 jours, 4 jours que je n'ai parlé à personne. Vous vous rendez compte? Dans un monde hyper connecté, et ben voilà. Et ceux qui peuvent nous dire ça, ce ne sont pas forcément des personnes âgées isolées au fin fond de leur maison, au fin fond de la campagne. Ceux qui nous appellent, c'est vraiment toutes les catégories sociales, aussi bien des hommes que des femmes. C'est à peu près le même nombre. C'est aussi bien des jeunes, des actifs ou des personnes plus âgées.
Chaque appel est bien entendu anonyme. Est-ce qu'il y a des éléments qui ont pu marquer les écoutants dans les discussions qui ont eu lieu?
Vous avez raison, déjà, de préciser. Nos appels sont totalement confidentiels et totalement anonymes. Donc on ne sait pas, absolument pas, qui est la personne qui nous appelle. Évidemment, on ne sait pas son nom. On ne sait pas où elle habite. On ne sait pas son numéro de téléphone. On n'a pas le numéro qui s'affiche. On ne sait pas. On ne sait rien d'elle. On ne saura qu'est-ce qu'elle nous dira d'elle au cours de la conversation. Lorsqu'on peut avoir des appels un peu plus difficiles à gérer, un peu plus lourds, on a, pour les écoutants, une fois par mois, il y a un temps qui leur est réservé, on appelle ça un moment de partage. Donc les écoutants se retrouvent par un petit groupe de 10 écoutants pour pouvoir échanger et évoquer leurs interrogations, leurs difficultés qu'ils ont eues lors d'un appel. Et ces réunions sont pilotées par des professionnels, c'est piloté par des psychologues. Et c'est très important, c'est capital pour un écoutant de participer à ces moments de partage.
Ce n'est pas un élément honteux, c'est aussi important peut-être de mettre cela en lumière. Chacun d'entre nous peut être à un moment ou à un autre de sa vie être confronté à des difficultés. C'est un service qui est là proposé et dont il faut se servir.
Absolument. Moi, j'ai l'habitude de dire qui n'a jamais eu à un moment de sa vie, qui n'a jamais eu besoin de parler. Soit vous avez la chance de pouvoir parler à quelqu'un, un proche autour de vous, quelqu'un de la famille, etc. Et du coup, vous pouvez, et il faut que ça sorte. Soit vous avez des choses à dire et vous ne pouvez pas les dire ne serait-ce qu'à votre meilleur ami, à votre famille. Et il faut pouvoir le dire, il faut mettre des mots, faut l'exprimer. Eh bien, on est là pour ça. Il arrive que des personnes qui nous appellent nous disent « ce que je vous dis là, je ne le dis même pas à mon psy ». Non pas que le psy soit pas capable de l'entendre. Mais c'est simplement que la personne qui appelle ne se sent pas capable de l'exprimer à son thérapeute. Comme chez nous, c'est totalement anonyme et confidentiel, je pense que ça aide à dénouer la parole.
Chacun d'entre nous peut donc composer ce numéro de téléphone, hein, le 09 72 39 40 50. C'est un numéro national, un numéro qui n'est bien entendu pas surtaxé.
Absolument, c'est un numéro pris d'un appel local, comme on dit. Tout le monde peut nous appeler. On écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est-à-dire 2 jours comme de nuit et tous les jours de la semaine, tout au long de l'année.
Une personne qui vous écoute, qui souhaiterait s'investir dans cette association, que peut-elle faire?
Si elle veut s'investir, elle est la bienvenue. Le mieux pour ça, c'est de nous contacter via notre site internet, qui est le www.sos-cure.org. amitié.com.
François Gourdeau Montagne, membre du conseil d'administration de SOS Amitié. Et si vous ressentez le besoin de contacter cette association, il suffit donc de composer le 09 72 39 40 50, le 09 72 39 40 50. La situation épidémique est critique en France. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, annonce qu'il faut s'attendre à 100 000 contaminations au Covid-19 chaque jour d'ici la fin du mois. En cause, la propagation à vitesse grand V du variant Omicron, plus contagieux que le Delta, encore en circulation. Le gouvernement mise tout sur la campagne vaccinale avant d'envisager d'éventuelles nouvelles restrictions. Le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal doit être présenté lundi prochain au Conseil des ministres. Ce 24 décembre, demain, le cirque Grus respectera une tradition qui remonte à 42 ans. Une messe de Noël sera célébrée dans le chapiteau à l'issue du spectacle. Cette messe sera célébrée cette année par Monseigneur Celestino Migliore, le nonce apostolique, le représentant du pape en France. Alain Pignel, membre de l'aumônerie des cirques et ami de longue date de la famille Grus.
Cette messe de minuit du cirque Grus, non pas au cirque Grus, mais du cirque Grus, existe depuis maintenant 42 ans. En 1979, il n'y avait pas beaucoup de messes de Noël le soir, elles étaient dites très tôt. Et Alexis Grus et sa famille, quand ils sortaient de piste, étaient privés de messe parce qu'il était 11h du soir. Donc, à l'époque, ils m'ont demandé de trouver un prêtre pour dire la messe pour leur famille. Et petit à petit, au fil des ans, cette messe, où au départ il y avait 45 personnes, est devenue la messe la plus importante en termes de la plus importante en termes de nombre de fidèles, puisqu'elle réunit quasiment 3000 personnes chaque année maintenant depuis une quinzaine d'années.
Alors, où se déroule-t-elle? À Paris?
Oui, la messe de minuit a toujours lieu sous le chapiteau de la compagnie Alexis Grus, qui depuis des années se trouve porte de Passy, à l'orée du bois de Boulogne. C'est un très grand chapiteau et elle a lieu à l'issue du spectacle. Donc la piste qui le soir de Noël accueille les numéros des artistes se transforme en quelques minutes en cathédrale et dans le cœur d'une église et la majorité des spectateurs restent pour assister à la messe. Et puis il y a des gens qui viennent spécialement pour cette célébration.
Alors la majorité des spectateurs restent pour la messe. On imagine que le public est très divers, tout le monde n'est pas chrétien, mais exactement. Il y a une communion à ce moment-là de tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas chrétiens.
Exactement. Et non seulement la diversité des croyants ou des non-croyants d'ailleurs est remarquable, mais je dirais aussi que ce sont des gens, c'est un peu les mages et les bergers réunis avant l'heure, puisque ce sont des gens qui viennent des quartiers résidentiels comme de banlieue, voire même de province, donc tout le monde est mélangé. Et ça donne une assemblée très diverse et une atmosphère particulière, très recueillie.
On imagine que c'est effectivement une soirée très particulière, puisque on voit des clowns, on voit des acrobates, et puis ensuite, le même lieu devient un espace sacré.
Oui, tout à fait. Donc la piste est aménagée, il y a un autel, il y a une croix qui est dressée, il y a un olivier qui symbolise la paix et il n'y a pas de crèche vivante. Par contre, au pied de l'olivier, il y a une botte de foin. Et sur cette botte de foin, venue des écuries, eh bien, on dépose le livre de l'Évangile et c'est la crèche de Noël qui est symbolisée ainsi. Tous les ans, cette messe est dite pour la quête qui est faite et remise à une œuvre. Et cette année, cette messe sera dite pour en lien avec le Liban. Et nous aurons la joie d'accueillir Fouad Hassoun, qui a une association qui s'appelle l'association Phoenix, qui distribue des repas à Beyrouth à des gens âgés et qui sont en grande détresse. Et c'est à cette association que sera destinée l'intégralité de la quête.
Et on imagine que tous les chœurs seront avec les Libanais ce soir de Noël, puisque le Liban a particulièrement souffert cette année.
Absolument. Alors vous dites tous les chœurs, on peut rajouter tous les chœurs avec un H également, puisque nous aurons une centaine de choristes, nous aurons une chorale de petits chanteurs qui seront là, et puis que la cérémonie aura un lustre particulier puisqu'elle sera présidée par le nonce apostolique en France, qui est quand même le représentant du pape, et donc Monseigneur Migliore, qui est l'archevêque à la fois ambassadeur du pape en France et à la fois représentant du pape auprès de l'Église de France, c'est lui qui célébrera la messe de minuit.
Il est important aussi que le spectacle comme le cirque Grus continue en cette période de crise sanitaire. J'imagine que ça a été très difficile aussi pour les artistes en 2021.
Ça a été très compliqué dès 2020 puisque les spectacles ont été annulés. Et pourtant, l'année dernière, à Noël, sans qu'il y ait de spectacle, on a tenu à célébrer la messe sous le chapiteau du cirque, pour ne pas interrompre cette tradition qui maintenant remonte à il y a 42 ans. Et là, ce sera cette année la 42e messe de minuit. Donc malgré les difficultés, malgré la lassitude que nous connaissons tous, eh bien, il y a ce désir que la vie continue et de fêter malgré tout Noël dans la joie.
Et tout le monde est le bienvenu ?
Tout le monde est le bienvenu. Donc les gens qui veulent absolument venir au spectacle prennent leur place, mais les gens qui veulent ne venir qu'à la messe, et c'est possible, arrivent à partir de 23h et l'entrée est libre et gratuite à cette messe qui est précédée d'ailleurs d'une petite veillée avec du chant de Noël et quelques textes de Noël.
On peut rappeler le métro ?
C'est le métro Ranelagh qui se trouve à 8 minutes à pied de l'endroit où se dresse le cirque, Porte de Passy, au rez du Bois de Boulogne. Le chapiteau est très visible, c'est un chapiteau de 3000 places, c'est un petit village.
Alain Pignal, membre de l'aumônerie des cirques et ami de longue date de la famille Grus, il répondait à Loïc Barrière. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient, il est 12h16. À 12h30, votre journal en langue arabe, présenté par Mazen Hamoud. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, 17h30 pour le journal. Un hommage à 19h et 23h, la rediffusion d'une émission plurielle avec le pédagogue Gabriel Cohn-Bendit, décédé vendredi dernier à l'âge de 85 ans. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.